Chapitre 6, le Temple, la Révolution sanglante. Mais avant de suivre André dans la prison où l'on devait l'envoyer comme suspecte, suivons la reine dans celle où l'on venait de la conduire comme coupable. Nous avons posé l'antagonisme de l'Assemblée et de la Commune. L'Assemblée, ainsi qu'il arrive à tous les corps constitués, n'avait point marché du même pas que les individus. Elle avait lancé le peuple dans la voie du 10 août, puis elle était restée en arrière. Les sections avaient improvisé le fameux Conseil de la Commune, et c'était ce Conseil de la Commune qui, en réalité, avait fait le 10 août prêché par l'Assemblée. Et la preuve, c'est que, contre la Commune, le roi avait été chercher un refuge à l'Assemblée. L'Assemblée avait donné un asile au roi, que la Commune n'eût point été fâchée de surprendre aux Tuileries, d'étouffer entre deux matelas, d'étrangler entre deux portes, avec la reine et le dauphin, avec la louve et le louveteau, comme on disait. L'Assemblée avait fait échouer ce projet, dont la réussite, tout infâme qu'elle l'était, eût peut-être été un grand bonheur. Donc l'Assemblée, protégeant le roi, la reine, le dauphin, la cour même, l'Assemblée était royaliste. L'Assemblée, décrétant que le roi habiterait au Luxembourg, c'est-à-dire un palais, l'Assemblée était royaliste. Il est vrai que, comme en toute chose, il y a des degrés dans le royalisme. Ce qui était royalisme aux yeux de la Commune ou même aux yeux de l'Assemblée était révolutionnaire à d'autres yeux. Lafayette, proscrit comme royaliste en France, n'allait-il pas être emprisonné comme révolutionnaire par l'empereur d'Autriche ? La Commune commençait donc à accuser l'Assemblée de royalisme, puis de temps en temps Robespierre sortait du trou où il était caché sa petite tête plate, pointue et venimeuse, et sifflait une calomnie. Robespierre était justement en train de dire, dans ce moment-là, qu'un parti puissant, la Gironde, offrait le trône au duc de Brunswick. La Gironde, comprenez-vous, c'est-à-dire la première voix qui eut crié « aux armes », le premier bras qui se fut offert pour défendre la France. Or, la Commune révolutionnaire devait, pour arriver à la dictature, contrecarrer tout ce que faisait l'Assemblée royaliste. L'Assemblée avait accordé au roi le Luxembourg comme logement. La Commune déclara qu'elle ne répondait pas du roi si le roi habitait le Luxembourg. Les caves du Luxembourg assuraient la Commune communiquer avec les catacombes. L'Assemblée ne pouvait pas rompre avec la Commune pour si peu de choses. Elle lui laissa le soin de choisir la résidence royale. La Commune choisit le Temple. Voyez si l'emplacement était bien choisi. Le Temple n'est pas, comme le Luxembourg, un palais donnant par ses caves dans les catacombes, par ses murailles sur la plaine, formant angle aigu avec les Tuileries et l'hôtel de ville. Non, c'est une prison, placée sous l'œil et à la portée de la Commune. Celle-ci n'a qu'à étendre la main, elle en ouvre ou ferme les portes. C'est un vieux donjon isolé dont on a refait le fossé, c'est une vieille tour basse, forte, sombre, lugubre. Philippe le Bel, c'est-à-dire la royauté, y brisa le Moyen-Âge qui se révoltait contre lui. La royauté y rentrera, brisée par l'âge nouveau. Comment cette vieille tour est-elle restée là, dans ce quartier populeux, noir et triste comme une chouette au grand soleil? C'est là que la Commune décide que demeureront le roi et sa famille. Y a-t-il eu calcul quand elle a assigné pour demeure au roi ce lieu d'asile où les anciens banqueroutiers venaient se coiffer du bonnet vert et frapper du cul la pierre, comme dit la loi du Moyen-Âge, après quoi ils ne devaient plus rien. Non, il y a eu hasard, fatalité. Nous dirions providence si le mot n'était trop cruel. Le 13 au soir, le roi, la reine, madame Élisabeth, madame de Lamballe, madame de Tourzel, monsieur Chemilly, valet de chambre du roi, et monsieur Hu, valet de chambre du dauphin, furent transférés au Temple. La Commune s'était tellement pressée de faire conduire le roi à sa nouvelle résidence que la tour n'était point prête. La famille royale fut, en conséquence, introduite dans cette portion du bâtiment qu'habitait autrefois monsieur le comte d'Artois quand il venait à Paris, ce que l'on appelait le palais. Tout Paris semblait en joie. 3500 citoyens étaient morts à la vérité, mais le roi, mais l'ami des étrangers, mais le grand ennemi de la Révolution, mais l'allié des nobles et des prêtres, le roi était prisonnier. Toute la maison dominant le temple était illuminée. Il y avait des lampions jusque dans les créneaux de la tour. Lorsque Louis XVI descendit de voiture, il trouva Santerre à cheval, se tenant à 10 pas de la portière. 2 municipaux attendaient le roi, le chapeau sur la tête. « Entrez, monsieur, lui dirent-ils. » Le roi entra et, se trompant naturellement sur sa résidence future, demanda à visiter les appartements du palais. Les municipaux échangèrent un sourire et, sans lui dire que la promenade qu'il allait faire était inutile, puisque c'était le donjon qu'il devait habiter, ils lui firent visiter le temple pièce par pièce. Le roi faisait la distribution de son appartement et les municipaux jouissaient de cette erreur qui allait tourner en amertume. À 10 heures, le roi fut servi. Pendant le repas, Manuel se tint debout près du roi. Ce n'était plus un serviteur prompt à obéir, c'était un geôlier, un surveillant, un maître. Supposez 2 ordres contradictoires, un donné par le roi, un donné par Manuel, c'est l'ordre de Manuel que l'on eût exécuté. Là commençait réellement la captivité. À partir du 13 août au soir, le roi, vaincu au sommet de la monarchie, quitte la cime suprême et descend à pas rapide le versant opposé de la montagne au bas de laquelle l'attend l'échafaud. Il a mis 18 ans à gravir le haut sommet et à s'y maintenir. Il mettra 5 mois et 6 jours à en être précipité. Voyez avec quelle rapidité on le pousse. À 10 heures, on est dans la salle à manger du palais, à 11 heures, dans le salon du palais. Le roi est encore, ou du moins croit encore être, il ignore ce qui se passe. À 11 heures, un des commissaires vint donner l'ordre aux 2 valets de chambre, U et Chemilly, de prendre le peu de linge qu'ils avaient et de le suivre. « Où cela, vous suivre ?» demandèrent les valets de chambre. « À la résidence de nuit de vos maîtres, répondit le commissaire. Le palais n'est que la résidence de jour. Le roi, la reine, le dauphin n'étaient déjà plus les maîtres que de leurs valets de chambre. À la porte du palais, on trouva un municipal qui marchait devant avec une lanterne. On suivit le municipal. À la faible lueur de cette lanterne, et grâce à l'illumination qui commençait à s'éteindre, Monsieur U cherchait à reconnaître la future habitation du roi. Il ne voyait devant lui que le sombre donjon s'élevant dans l'air comme un géant de granit, au front duquel brillait une couronne de feu. « Mon Dieu !» dit le valet de chambre, s'arrêtant, « est-ce que ce serait à cette tour que vous nous conduiriez ?»« Justement, » répondit le municipal, « ah, le temps des palais est passé. Tu vas voir comment on loge les assassins du peuple. » En achevant ces paroles, l'homme à la lanterne heurtait les premières marches d'un escalier en colimaçon. Les valets de chambre allaient s'arrêter au premier étage, mais l'homme à la lanterne continua son chemin. Enfin, au second étage, il cessa de monter, prit un corridor situé à droite de l'escalier et ouvrit une chambre située à droite du corridor. Une seule fenêtre éclairait cette chambre, 3 ou 4 sièges, une table et un mauvais lit en formaient tout l'ameublement. « Lequel de vous deux est le domestique du roi ?» demanda le municipal. « Je suis son valet de chambre, » dit Monsieur Chemillé. « Oh, valet de chambre ou domestique, c'est toujours la même chose. » Et alors, montrant le lit, « Tiens, ajouta-t-il, c'est ici que ton maître couchera. » Et l'homme à la lanterne jeta sur cette chaise une couverture et une paire de draps, alluma avec sa lanterne 2 chandelles sur la cheminée et laissa seuls les 2 valets de chambre. On allait préparer l'appartement de la reine situé au premier étage. Messieurs U et Chemilly se regardèrent stupéfaits. Ils avaient encore dans leurs yeux pleins de larmes les splendeurs des demeures royales. Ce n'était plus même dans une prison qu'on précipitait le roi, on le logeait dans un taudis. La majesté de la mise en scène manquait au malheur. Ils examinèrent la chambre. Le lit était dans une alcôve sans rideaux. Une vieille clé d'osier, posée contre la muraille, indiquait une précaution prise contre les punaises. Une précaution insuffisante, c'était facile à voir. Ils ne se rebutèrent point cependant et se mirent à nettoyer de leur mieux la chambre et le lit. Comme l'un balayait et comme l'autre époussetait, le roi entra. « Oh, sire !» dirent-ils d'une même voix, « quelle infamie !» Le roi, était-ce force d'âme, était-ce insouciance, demeura impassible. Il jeta un regard autour de lui, mais ne dit pas un mot. Comme la muraille était tapissée de gravures et que quelques-unes de ces gravures étaient obscènes, il les arracha. « Je ne veux pas, dit-il, laisser de pareils objets sous les yeux de ma fille. » Puis son lit fait, le roi se coucha et s'endormit aussi tranquillement que s'il eût été encore aux Tuileries, plus tranquillement peut-être. Certes, si à cette heure on eût donné au roi 30 000 livres de rente, une maison de campagne avec une forge, une bibliothèque de voyage, une chapelle où entendre la messe, un chapelain pour la lui dire, un parc de 10 arpents où il eût pu vivre à l'abri de toute intrigue, entouré de la reine, du dauphin, de Madame Royale, c'est-à-dire, mot plus doux, de sa femme et de ses enfants, le roi eût été l'homme le plus heureux de son royaume. Il n'en fut point ainsi de la reine. Si elle ne rugit pas à la vue de sa cage, la fière lionne, c'est qu'une si cruelle douleur veillait au fond de sa poitrine qu'elle devenait aveugle et insensible à tout ce qui l'entourait. Son appartement se composait de 4 pièces, une antichambre où s'arrêta Madame la princesse de Lamballe, une chambre où s'installa la reine, un cabinet que l'on céda à Madame de Tourzel et une seconde chambre dont on fit l'habitation de Madame Élisabeth et des 2 enfants. Tout cela était un peu plus propre que chez le roi. D'ailleurs, comme si Manuel eût eu honte de l'espèce de supercherie dont on avait usé avec le roi, il annonça que l'architecte de la commune, le citoyen Palois, le même qui avait été chargé de la démolition de la Bastille, viendrait s'entendre avec le roi pour rendre la future habitation de la famille royale aussi commode que possible. Maintenant, tandis qu'André dépose dans la tombe le corps de son mari bien-aimé, tandis que Manuel installe au temple le roi et la famille royale, tandis que le charpentier dresse la guillotine sur la place du Carrousel, champ de victoire qui va se transformer en place de grève, jetons un coup d'œil dans l'intérieur de l'hôtel de ville où nous sommes déjà entrés 2 ou 3 fois et apprécions ce pouvoir qui vient de succéder à celui des baillis et des Lafayette et qui tend, en se substituant à l'Assemblée législative, à s'emparer de la dictature. Voyons les hommes, ils nous donneront l'explication des actes. Le 10 au soir, quand tout était fini, bien entendu, quand le bruit du canon était assoupi, quand le bruit de la fusillade était éteint, quand on ne faisait plus qu'assassiner, une troupe de gens ivres et déguenillés avait apporté à bras, au milieu du conseil de la commune, l'homme des ténèbres, le hibou aux paupières clignotantes, le prophète de la populace, le divin Marat. Lui s'était laissé faire. Il n'avait plus rien à craindre. La victoire était décidée et le champ ouvert aux loups, aux vautours et aux corbeaux. Il l'appelait le vainqueur du 10 août, lui qu'ils avaient pris au moment où il sortait la tête par le soupirail de sa cave. Il l'avait couronné de laurier et lui, comme César, avait gardé naïvement la couronne sur son front. Ils vinrent, les citoyens sans culotte, et jetèrent, comme nous venons de le dire, le dieu Marat au milieu de la commune. C'est ainsi qu'on avait jeté Vulcain estropié dans le conseil des dieux. À la vue de Vulcain, les dieux avaient ri, à la vue de Marat, beaucoup rirent, les autres furent pris de dégoût, quelques-uns frémirent. C'était ces derniers qui avaient raison. Et cependant Marat ne faisait point partie de la commune, il n'en avait point été nommé membre, il y avait été apporté. Il y resta. On lui fit, pour lui, tout exprès pour lui, une loge de journalistes. Seulement, au lieu que le journaliste fût sous la main de la commune, comme le logographe était sous la main de l'Assemblée, c'était la commune qui fut sous la griffe, sous la patte de Marat. De même que dans le beau drame de notre cher et grand ami Victor Hugo, Angelo est sur Padoue, mais sans Venise au-dessus de lui, de même la commune était sur l'Assemblée, mais sentait Marat au-dessus d'elle. Regardez comme elle obéit à Marat, cette altière commune à laquelle obéit l'Assemblée. Voici une de ses premières décisions. Désormais, les presses des empoisonneurs royalistes seront confisquées et adjugées aux imprimeurs patriotes. Le matin du jour où le décret est rendu, Marat l'exécute. Il va à l'imprimerie royale, fait traîner une presse chez lui et emporter dans des sacs tous les caractères qui lui conviennent. n'est-il pas le premier des imprimeurs patriotes? L'Assemblée s'était effrayée des massacres du 10. Elle avait été impuissante à les empêcher. On avait massacré dans sa cour, dans ses corridors, à sa porte. Danton avait dit « Où commence l'action de la justice, là doivent cesser les vengeances populaires. Je prends devant l'Assemblée l'engagement de protéger les hommes qui sont dans son enceinte. Je marcherai à leur tête, je réponds d'eux. » Danton avait dit cela avant que Marat fût à la Commune. Du moment où Marat fut à la Commune, il ne répondit plus de rien. En face du serpent, le lion biaisa. Il essaya de se faire renard. Lacroix, cet ancien officier, ce député athlétique, un des sans-bras de Danton, monta à la tribune et demanda de faire nommer par le commandant de la garde nationale, par Santerre, l'homme auquel les royalistes eux-mêmes accordent sous sa forme rude un cœur compatissant, Lacroix demanda de faire nommer une cour martiale qui jugerait sans désemparer les Suisses officiers et soldats. Voici quelle était l'idée de Lacroix, ou plutôt de Danton. Cette cour martiale, on la prendrait parmi les hommes qui s'étaient battus. Les hommes qui s'étaient battus, c'étaient des hommes de courage. Or, les hommes de courage apprécient et respectent le courage. D'ailleurs, par cela même qu'ils étaient vainqueurs, ils eussent répugné à condamner des vaincus. Ne les a-t-on pas vus, ces vainqueurs, ivres de sang, fumant de carnage, épargner les femmes, les protéger, les reconduire? Une cour martiale choisie parmi les fédérés bretons ou marseillais, parmi les vainqueurs, enfin, c'était donc le salut des prisonniers. Et la preuve que c'était une mesure de clémence, c'est que la Commune la repoussa. Marat préférait le massacre, ce serait plutôt fini. Il demandait des têtes, puis des têtes, et encore des têtes. Son chiffre, au lieu de diminuer, allait toujours croissant. Ce furent 50 000 têtes d'abord, puis 100 000, puis 200 000. À la fin, il en demandait 273 000. Pourquoi ce compte bizarre, cette fraction étrange? Il eût été lui-même bien embarrassé pour le dire. Il demande le massacre, voilà tout, et le massacre s'organise. Aussi Danton ne met plus le pied à la Commune. Son travail de ministre l'absorbe à ce qu'il dit. Que fait la Commune? Elle expédie des députations à l'Assemblée. Le 16, trois députations se succèdent à la barre. Le 17, une nouvelle députation se présente. « Ce peuple, dit-elle, est las de n'être point vengé. Craignez qu'il ne fasse justice. Ce soir à minuit, le tocsin sonnera. Il faut un tribunal criminel aux Tuileries, un juge pour chaque section. » Louis XVI et Antoinette voulaient du sang qu'ils voient couler celui de leur satellite. Cette audace, cette pression, fait bondir deux hommes, le jacobin Choudieu, le dantoniste Thuriot. « Ceux qui viennent demander ici le massacre, dit Choudieu, ne sont point des amis du peuple, ce sont ces flatteurs. On veut une inquisition, j'y résisterai jusqu'à la mort. » « Vous voulez déshonorer la Révolution ?» s'écrie Thuriot. « La Révolution n'est pas seulement à la France, la Révolution est à l'humanité. » Après les pétitions viennent les massacres. Ce sont les sectionnaires qui entrent à leur tour et qui disent « Si avant 2 ou 3 heures le directeur du jury n'est pas nommé, et si les jurés ne sont pas en état d'agir, de grands malheurs se promèneront dans Paris. » À cette dernière menace, l'Assemblée fut forcée d'obéir. Elle vota la création d'un tribunal extraordinaire. C'était le 17 que la demande avait été faite, le 19 le tribunal était créé, le 20 le tribunal s'installait et condamnait à mort un royaliste. Le 21 au soir, le condamné de la veille était exécuté au flambeau sur la place du Carrousel. Au reste, l'effet de cette première exécution fut terrible, si terrible que le bourreau lui-même ne put y résister. Au moment où il montrait au peuple la tête de ce premier condamné, qui devait ouvrir une si large route aux charrettes funèbres, il jeta un cri, laissa rouler la tête sur le pavé et tomba à la renverse. Ses aides le ramassèrent, il était mort. La révolution de 1789, c'est-à-dire celle des Necker, des Sieyès et des Bailly, s'était terminée en 1790. Celle des Barnaves, des Mirabeau et des Lafayette avait eu sa fin en 1792. La grande révolution, la révolution sanglante, la révolution des Dantons, des Marats et des Robespierre était commencée. en accolant les noms de ces trois derniers personnages, nous ne voulons pas les confondre dans une seule et même appréciation. Tout au contraire, ils représentent à nos yeux, dans leur individualité bien distincte, les trois faces des trois années qui vont s'écouler. Danton s'incarnera dans 1792, Marat dans 1793, Robespierre dans 1794. Les événements se pressent d'ailleurs. Voyons les événements. Nous examinerons ensuite les moyens par lesquels cherchent à les prévenir ou à les précipiter l'Assemblée nationale et la Commune. Au surplus, nous voici à peu près tombés dans l'histoire. Tous les héros de notre livre, à quelques exceptions près, ont déjà sombré dans la tempête révolutionnaire. Que sont devenus les trois frères Charny, Georges, Isidore et Olivier? Ils sont morts. Que sont devenus la reine et André? Elles sont prisonnières. Que devient Lafayette? Il est en fuite. Le 17 août, Lafayette, par une adresse, avait appelé l'armée à marcher sur Paris et à y rétablir la Constitution, à défaire le 10 août et à restaurer le roi. Lafayette, l'homme loyal, avait perdu la tête comme les autres. Ce qu'il voulait faire, c'était conduire directement les Prussiens et les Autrichiens à Paris. L'armée le repoussa d'instinct, comme 8 mois plus tard, elle repoussa Dumouriez. L'histoire eût accolé l'un à l'autre les noms de ces deux hommes, nous voulons dire enchaînés, si Lafayette, détesté par la reine, n'avait eu le bonheur d'être arrêté par les Autrichiens et envoyé à Olmütz. Sa captivité fit oublier la désertion. Le 18, Lafayette passa la frontière. Le 21, ses ennemis de la France, ses alliés de la royauté, contre lesquels on avait fait le 10 août et contre lesquels on allait faire le 2 septembre, ces Autrichiens que Marie-Antoinette appelait à son aide pendant cette claire nuit où la lune, en passant à travers les vitres de la chambre à coucher de la reine, versait le jour sur son lit, ces Autrichiens investissaient Longwy. Après 24 heures de bombardement, Longwy se rendait. La veille de ses redditions, à l'autre extrémité de la France, la Vendée se soulevait. La prestation du serment ecclésiastique était le prétexte de ce soulèvement. Pour faire face à ces événements, l'Assemblée nommait Dumouriez au commandement de l'armée de l'Est et décrétait Lafayette d'arrestation. Elle l'arrêtait qu'aussitôt que la ville de Longwy serait rentrée au pouvoir de la nation française, toute la maison, à l'exception des maisons nationales, serait détruite et rasée. Elle rendait une loi qui bannissait du territoire tout prêtre non assermenté. Elle autorisait les visites domiciliaires. Elle confisquait et mettait en vente les biens des émigrés. Pendant ce temps-là, que faisait la Commune? Nous avons dit qu'elle était son oracle, Marat. La Commune guillotinait sur la place du Carrousel. On lui donnait une tête par jour. C'était bien peu. Mais dans une brochure qui paraît à la fin d'août, les membres du tribunal expliquent l'énorme travail qu'ils se sont imposés pour obtenir ce résultat, si peu satisfaisant qu'il soit. Il est vrai que la brochure est signée « Fouquier-Tinville ». Aussi, voyez ce que rêve la Commune. Nous allons assister tout à l'heure à la réalisation de ce rêve. C'est le 23 au soir qu'elle donne son prospectus. Suivie d'une tourbe ramassée dans les ruisseaux des faubourgs et des halles, une députation de la Commune se présente vers minuit à l'Assemblée nationale. Que demande-t-elle? Que les prisonniers d'Orléans soient amenés à Paris pour y subir leur supplice. Or, les prisonniers d'Orléans ne sont pas jugés. Soyez tranquille, c'est une formalité dont la Commune se passera. D'ailleurs, elle a la fête du 10 août qui va lui venir en aide. Sergent, son artiste, en est l'ordonnateur. Il a déjà mis en scène la procession de la patrie en danger, et vous savez qu'elle l'a réussi. Cette fois, Sergent se surpassera. Il s'agit de remplir de deuil, de vengeance, de douleur meurtrière les âmes de tous ceux qui ont perdu, au 10 août, un être qui leur était cher. En face de la guillotine qui fonctionne sur la place du Carrousel, il élève, au milieu du grand bassin des Tuileries, une gigantesque pyramide toute recouverte de serge noire. Sur chaque face sont rappelés les massacres que l'on reproche aux royalistes. Massacre de Nancy, massacre de Nîmes, massacre de Montauban, massacre du Champ de Mars. La guillotine disait « je tue », la pyramide disait « tue ». Ce fut le soir du dimanche 27 août, 5 jours après l'insurrection de la Vendée faite par les prêtres, 4 jours après la reddition de Longwy, dont le général Clerfailly venait de prendre possession au nom du roi Louis XVI, que la procession expiatoire se mit en marche, afin de profiter des mystérieuses majestés que les ténèbres jettent sur toute chose. D'abord, à travers des nuages de parfums brûlants sur toute la route à parcourir, s'avançaient les veuves et les orphelines du 10 août, drapées de robes blanches, la taille serrée de ceintures noires, portant dans une arche construite sur le modèle de l'arche antique cette pétition dictée par Madame Roland, écrite sur l'autel de la patrie par Mademoiselle de Keralio, dont les feuilles sanglantes avaient été retrouvées éparses dans le Champ de Mars et qui, dès le 17 juillet 1791, demandait la République. Puis venaient de gigantesques sarcophages noirs, faisant allusion à ces charrettes que l'on chargeait le soir du 10 août dans les cours des Tuileries et que l'on dirigeait vers les faubourgs, gémissantes du poids des cadavres. Puis des bannières de deuil et de vengeance, demandant la mort pour la mort, puis la loi, statue colossale armée d'un glaive à sa taille. Elle était suivie des juges des tribunaux, en tête desquels marchait le tribunal révolutionnaire du 10 août, celui-là qui s'excusait de ne faire tomber qu'une tête par jour. Puis arrivait la commune, la mère sanglante de ce tribunal sanglant, conduisant dans ses rangs la statue de la liberté, de la même taille que celle de la loi, puis enfin l'assemblée, portant ses couronnes civiques qui consolent peut-être les morts, mais qui sont si insuffisantes aux vivants. Tout cela s'avançait majestueusement au milieu des sombres chants de chéniers, de la musique sévère de Gossec marchant comme elle d'un pied sûr. Une partie de la nuit du 27 au 28 août se passa dans l'accomplissement de cette cérémonie expiatoire, fête funéraire de la foule, pendant laquelle la foule, montrant le poing à ses Tuileries vides, menaçait ses prisons, forteresses de sûreté qu'on avait données aux rois et aux royalistes en échange de leurs palais et de leurs châteaux. Puis enfin, les derniers lampions éteints, les dernières torches réduites en fumée, le peuple se retira. Les deux statues de la loi et de la liberté restèrent seules pour garder l'immense sarcophage, mais comme personne ne les gardait elle-même, soit imprudence, soit sacrilège, on dépouilla pendant la nuit les deux statues de leurs vêtements inférieurs. Le lendemain, les deux pauvres déesses étaient moins que des femmes. Le peuple à cette vue poussa un cri de rage. Il accusa les royalistes, courut à l'assemblée, demanda vengeance, s'empara des statues, les rhabilla et les traîna en réparation sur la place Louis XV. Plus tard, l'échafaud les y suivit et leur donna, le 21 janvier, une terrible satisfaction de l'outrage qui leur avait été fait le 28 août. Ce même jour, 28 août, l'Assemblée avait rendu la loi sur les visites domiciliaires. Le bruit commençait à se répandre parmi le peuple de la jonction des armées prussiennes et autrichiennes et de la prise de Longwy par le général Clerfailly. Aussi, l'ennemi, appelé par le roi, les nobles et les prêtres, marchait sur Paris et, en supposant que rien ne l'arrêtât, pouvait y être en 6 étapes. Alors qu'arriverait-il de ce Paris bouillonnant comme un cratère et dont les secousses depuis 3 ans ébranlaient le monde? Ce qu'avait dit cette lettre de Bouillet, insolente plaisanterie dont on avait en ri et qui allait devenir une réalité, il n'y resterait pas pierre sur pierre. Il y avait plus. On parlait comme d'une chose sûre, d'un jugement général, terrible, inexorable, qui, après avoir détruit Paris, détruirait les Parisiens. De quelle façon et par qui ce jugement serait-il rendu? Les écrits du temps vous le disent. La main sanglante de la commune est tout entière dans cette légende qui, au lieu de raconter le passé, raconte l'avenir. Pourquoi d'ailleurs n'y croirait-on pas à cette légende? Voici ce qu'on lisait dans une lettre trouvée dans les Tuileries le 10 août et que nous avons lue nous-mêmes aux archives, où elle est encore. Les tribunaux arrivent derrière les armées, les parlementaires émigrés instruisent chemin faisant dans le camp du roi de Prusse le procès des Jacobins et préparent leur potence. De sorte que, quand les armées prussiennes et autrichiennes arriveront à Paris, l'instruction sera faite, le jugement rendu, et il n'y aura plus qu'à le mettre en exécution. Puis, pour confirmer ce qu'a dit la lettre, voici ce que l'on imprime dans le bulletin officiel de la guerre. La cavalerie autrichienne, aux environs de Sarre-Louis, a enlevé les mères patriotes et les républicains connus. Des Uhlans, ayant pris des officiers municipaux, leur ont coupé les oreilles et les leur ont cloués sur le front. Si l'on commettait de pareils actes dans la province inoffensive, que ferait-on au Paris révolutionnaire? Ce que l'on ferait de lui, ce n'était plus un secret. Voici la nouvelle qui se répandait, se débitant à tous les carrefours, s'éparpillant de chaque centre pour arriver aux extrémités. On dressera un grand trône pour les rois alliés en vue du monceau de ruines qui aura été Paris. Toute la population prisonnière sera poussée, traînée, chassée captive au pied de ce trône. Là, comme au jour du jugement dernier, il se fera un triage des bons et des mauvais. Les bons, c'est-à-dire les royalistes, les nobles, les prêtres, passeront à droite, et la France leur sera rendue pour en faire ce qu'ils voudront. Les mauvais, c'est-à-dire les révolutionnaires, passeront à gauche, et ils y trouveront la guillotine, cet instrument inventé par la Révolution et par lequel la Révolution périra. La Révolution, c'est-à-dire la France, non seulement la France, ce ne serait rien, les peuples sont faits pour servir d'holocauste aux idées, non seulement la France, mais encore la pensée de la France. Pourquoi aussi la France a-t-elle prononcé la première ce mot de « liberté » ? Elle a cru proclamer une chose sainte, la lumière des yeux, la vie des âmes. Elle a dit « liberté pour la France, liberté pour l'Europe, liberté pour le monde ». Elle a cru faire une grande chose en émancipant la terre, et voilà qu'elle s'est trompée à ce qu'il paraît. Voilà que Dieu lui donne tort. Voilà que la Providence est contre elle. Voilà qu'en croyant être innocente et sublime, elle était coupable et infâme. Voilà que, quand elle a cru faire une grande action, elle a commis un crime. Voilà qu'on la juge, qu'on la condamne, qu'on la décapite, qu'on la traîne aux gémonies de l'univers, et que l'univers, pour le salut duquel elle meurt, applaudit à sa mort. Ainsi Jésus-Christ, crucifié pour le salut du monde, était mort au milieu des railleries et des insultes du monde. Mais enfin, pour faire face à l'étranger, ce pauvre peuple a peut-être quelque appui en lui-même. Ceux qui l'a adoré, ceux qui l'a enrichi, ceux qui l'a payé, le défendront peut-être. Non, son roi conspire avec l'ennemi, et du temple où il est enfermé, continue de correspondre avec les Prussiens et les Autrichiens. Sa noblesse marche contre lui, organisée par ses princes. Ses prêtres font révolter les paysans. Du fond de leur prison, les détenus royalistes battent des mains aux défaites de la France. Les Prussiens, à Longwy, ont fait pousser un cri de joie au temple et à l'abbaye. Aussi, Danton, l'homme des résolutions extrêmes, est-il entré tout rugissant à l'Assemblée. Le ministre de la Justice croit la justice impuissante et vient demander qu'on lui donne la force, et la justice alors marchera appuyée sur la force. Il monte à la tribune, il secoue sa crinière de lion, il étend la main puissante qui, le 10 août, a brisé les portes des Tuileries. « Il faut une convulsion nationale pour faire rétrograder les despotes, dit-il. Jusqu'ici, nous avons eu une guerre simulée. Ce n'est pas de ce misérable jeu qu'il doit être maintenant question. Il faut que le peuple se porte, se rue en masse sur les ennemis pour les exterminer d'un seul coup. Il faut, en même temps, enchaîner tous les conspirateurs. Il faut les empêcher de nuire. » Et Danton demande la levée en masse, les visites domiciliaires, les perquisitions nocturnes, avec peine de mort pour quiconque entravera les opérations du gouvernement provisoire. Danton obtint tout ce qu'il demandait. Il eût demandé davantage qu'il eût obtenu davantage. « Jamais, dit Michelet, jamais peuple n'était entré si avant dans la mort. » Quand la Hollande, voyant Louis XIV à ses portes, n'eut de ressources que de s'inonder, de se noyer elle-même, elle fut en moindre danger. Elle avait l'Europe pour elle. Quand Athènes vit le trône de Xerxès, sous le rocher de Salamine, qu'elle perdit terre, se jeta à la nage et n'eut plus que de l'eau pour patrie, elle fut en moindre danger. Elle était toute sur sa flotte, puissante, organisée dans la main du grand Thémistocle, et, plus heureuse que la France, elle n'avait pas la trahison dans son sein. La France était désorganisée, dissoute, trahie, vendue et livrée. La France était comme Iphigénie sous le couteau de Calchas. Les rois en cercle n'attendaient que sa mort pour que soufflât dans leurs voiles le vent du despotisme. Elle tendait les bras aux dieux et les dieux étaient sourds. Mais enfin, quand elle sentit la froide main de la mort la toucher par une violente et terrible contraction, elle se replia sur elle-même. Et puis, volcan de vie, elle fit jaillir de ses propres entrailles cette flamme qui, pendant un demi-siècle, éclaira le monde. Il est vrai que, pour ternir ce soleil, il y a une tache de sang, la tache de sang du 2 septembre. Nous allons y arriver, voir qui a répandu ce sang et s'il doit être imputé à la France. Mais auparavant, empruntons, pour clore ce chapitre, empruntons encore 2 pages à Michelet. Nous nous sentons impuissants près de ce géant et, comme Danton, nous appelons la force à notre secours. Voyez. Paris avait l'air d'une place forte. On se serait cru à Lille ou à Strasbourg. Partout, les consignes, les factionnaires, des précautions militaires, prématurées à vrai dire, l'ennemi était encore à 50 ou 60 lieues. Ce qui était plus sérieux, véritablement touchant, c'était le sentiment de solidarité profonde, admirable, qui se révélait partout. Chacun s'adressait à tous, parlait, priait pour la patrie. Chacun se faisait recruteur, allait de maison en maison, offrait à celui qui pouvait partir un uniforme, des armes, ce qu'il avait. Tout le monde était orateur, prêchait, discourait, chantait des chants patriotiques. Qui n'était auteur en ce moment singulier? Qui n'imprimait? Qui n'affichait? Qui n'était acteur dans ce grand spectacle? Les scènes les plus naïves, où tous figuraient, se jouaient partout, sur les places, sur les théâtres d'enrôlement, aux tribunes où l'on s'inscrivait. Tout autour, c'était des chants, des cris, des larmes d'enthousiasme ou d'adieu. Et par-dessus toutes ces voix, une grande voix sonnait dans les cœurs, voix muette, d'autant plus profonde, la voix même de la France, éloquente en tous ses symboles, pathétique dans le plus tragique de tous, le drapeau saint et terrible du danger de la patrie, appendu aux fenêtres de l'hôtel de ville, drapeau immense qui flottait au vent et semblait faire signe aux légions populaires de marcher en hâte des Pyrénées à l'Escaut, de la Seine au Rhin. Pour savoir ce que c'était que ce moment de sacrifice, il faudrait, dans chaque chaumière, dans chaque logis, voir l'arrachement des femmes, le déchirement des mères, à ce second accouchement, plus cruel 100 fois que celui où l'enfant fit son premier départ de ses entrailles sanglantes. Il faudrait voir la vieille femme, les yeux secs, le cœur brisé, ramasser en hâte les quelques hartes que l'enfant emportera, les pauvres économies, les sous épargnés par le jeune et qu'elle s'est volée à elle-même pour son fils, pour ce jour des dernières douleurs. Donner leurs enfants à cette guerre qui s'ouvrait avec si peu de chance, les immoler à cette situation extrême et désespérée, c'était plus que la plupart ne pouvaient faire. Elle succombait à ses peines, ou bien, par une réaction naturelle, elle tombait dans des accès de fureur. Elle ne ménageait rien, ne craignait rien. Aucune terreur n'a prise sur un tel état d'esprit. Quelle terreur pour qui veut la mort? On nous a raconté qu'un jour, sans doute en août ou en septembre, une bande de ces femmes furieuses rencontrèrent Danton dans la rue, l'injurièrent comme elles auraient injurié la guerre elle-même, lui reprochant toute la révolution, tout le sang qui serait versé et la mort de leurs enfants, le maudissant, priant Dieu que tout retombât sur sa tête. Lui, il ne s'en étonna pas, et quoiqu'il sentît tout autour de lui les ongles, il se retourna brusquement, regarda ses femmes, les prit en pitié. Danton avait beaucoup de cœur. Il monta sur une borne et, pour les consoler, commença à les injurier dans leur langue. Les premières paroles furent violentes, burlesques, obscènes. Les voilà tout interdites. Sa fureur, vraie ou simulée, déconcerte leur fureur. Ce prodigieux orateur, instinctif et calculé, avait pour base populaire un tempérament sensuel et fort, tout fait pour l'amour physique où dominait la chair et le sang. Danton était, d'abord et avant tout, un mâle. Il y avait en lui du lion et du dogue, beaucoup aussi du taureau. Son masque effrayé, la sublime laideur d'un visage bouleversé, prêtait à sa parole brusque, dardée par excès, une sorte d'aiguillon sauvage. Les masses qui aiment la force sentait devant lui ce que fait éprouver de crainte et de sympathie pourtant tout être puissamment générateur. Et puis, sous ce masque violent, furieux, on sentait aussi un cœur. On finissait par se douter d'une chose, c'est que cet homme terrible, qui ne parlait que par menace, cachait au fond un brave homme. Ces femmes, ameutées autour de lui, sentirent confusément tout cela et se laissèrent haranguer, dominer, maîtriser. Il les mena où et comme il voulut. Il leur expliqua rudement à quoi sert la femme, à quoi sert l'amour, à quoi sert la génération, que l'on n'enfante pas pour soi mais pour la patrie. Et, arrivé là, il se leva tout à coup, ne parla plus pour personne, mais, il semblait, pour lui seul. Tout son cœur lui sortit, dit-on, de la poitrine, avec des paroles d'une tendresse violente pour la France, et sur ce visage étrange, brouillé de petites véroles, et qui ressemblait aux scories du Vésuve et de l'Etna, commencèrent à venir de grosses gouttes, c'étaient des larmes. Ces femmes n'y purent tenir, elles pleurèrent la France, au lieu de pleurer leurs enfants, et, sanglotantes, s'enfuirent en se cachant le visage dans leur tablier. Ô grand historien qu'on appelle Michelet, où es-tu? À Nervi. Ô grand poète qu'on appelle Hugo, où es-tu? À Jersey.